Bonjour, je reviendrai à l'actualité des idées dans cette dernière partie de la Grande Table avec vous. Antoine Mercier, le Front National est-il une force politique mouvante? On en parle avec notre invité Joël Gombin, politiste, enseignant à Sciences Po Paris et Aix-en-Provence, spécialiste de sociologie et de géographie électorale. Il est également membre de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Il a notamment aussi participé à l'ouvrage collectif de Jérôme Fourquet, Karim vote à gauche et son voisin vote Front National, sociologie électorale de l'immigration. Un ouvrage paru aux éditions de l'Aube et il revient, Joël Gombin, avec le Front National chez Erol, fruit de 10 ans de recherche sur l'extrême droite. Un retour sur les temps forts de l'histoire du parti, de sa création à l'accession de Marine Le Pen à la tête du parti, ses tensions internes, ses ressorts électoraux et ses perspectives d'avenir 2017, bien sûr, en ligne de mire. Bonjour Joël Gombin.
Bonjour.
Vous concluez cet ouvrage, et oui, on va commencer par la conclusion, une fois n'est pas coutume, par ces mots. Le Front National jouera sans aucun doute un rôle central dans le cycle électoral de 2017. Cela ne tient pas seulement au score qu'il pourra réaliser, à la présence ou non de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, au nombre de députés qu'il obtiendra. La place qu'occupe le Front National dans l'espace public est avant tout celle que nous tous, chercheurs, journalistes, militants, citoyens engagés ou pas, acceptons de lui donner. C'est effectivement un vieux débat, une vieille controverse. Le Front National, paria des médias ou au contraire un parti surexposé. Qu'en pensez-vous, Joël Gombin? Le Front National, est-ce qu'on lui donne trop de place ou pas assez?
Bon, en sortant un livre sur le Front National et en venant en parler chez vous, j'aurais mauvaise grâce à dire qu'on en parle trop. Mais le fait est que depuis un nombre d'années certains, le Front National occupe une place assez centrale dans les débats politiques en France, et c'est encore plus le cas depuis le début du cycle qui s'est ouvert en 2011 avec l'accession de Marine Le Pen à la tête du Front National, de sorte que à tous les cycles électoraux, ça a été vrai en 2014, ça a été vrai en 2015, ce sera encore vrai en 2017, la place qu'occupera le Front National dans le débat électoral devient un élément central du débat. Et il n'y a pas d'autres partis politiques en France qui jouissent de ce privilège-là, je dirais. Donc, il me semble que la question n'est plus tellement de savoir si on en parle trop, pas assez, etc., mais aussi de savoir comment on en parle et quel rôle on lui donne dans le débat public.
C'est effectivement l'autre débat dans le débat et l'autre controverse entre la diabolisation et la victimisation du Front National. Comment en parler? Est-ce que vous avez résolu cette question? En tout cas, vous avez dû vous la poser.
Oui, je me la pose. En même temps, j'ai le privilège d'être chercheur, de ne pas être journaliste, ni élu ou militant politique. Et donc, par définition, je dirais, un chercheur est obligé de faire un pas de côté par rapport à l'actualité. Et d'ailleurs, c'est un peu le sens de ce livre aussi, de revenir à une perspective plus historique, plus distanciée, plus sociologique, de ne pas être dans l'immédiateté du débat et donc aussi dans l'immédiateté des émotions. Mais je suis tout à fait conscient du fait que, aussi bien pour les politiques que pour les journalistes, le positionnement est extrêmement difficile et que nous sommes tous pris dans des logiques qui nous dépassent largement. Et donc il ne s'agit pas d'incriminer les uns ou les autres. Ce n'est pas un procès individuel que je fais, c'est beaucoup plus un constat lié au fonctionnement aujourd'hui de notre système politique et médiatique qui accorde cette place hors norme au Front National.
En tout cas, en parler, c'est pas forcément faire le jeu du Front National.
Non,
c'est
bien sûr.
Un peu court de dire ça. Vous vous posez cette question, celle notamment de l'objectivité du chercheur et ce, dès l'introduction de cet ouvrage, le Front National qui vient de paraître chez Erol. Comment l'étudier quand on est chercheur? Comment mettre ses affects de côté et comment travailler aussi son objectivité pour cette radiographie du Front National? Comment avez-vous procédé? Vous êtes, Joël Gombin, un spécialiste des données, des recueils, de ces data. Comment vous avez travaillé avec elle? Comment vous avez objectivé ces statistiques que vous avez pu recueillir, pour reprendre l'expression de Patrick Lehingue?
Alors, effectivement, moi, je suis ce qu'on appelle un quantitativiste, hein, c'est-à-dire que je travaille plutôt sur des matériaux quantitatifs, des résultats d'élections, des données de recensement, etc., et que j'essaie ensuite de mettre en relation, de modéliser pour établir des régularités et tenter de leur donner un sens. C'est bien sûr pas du tout le seul moyen d'accéder à une forme d'objectivité. Il y en a bien d'autres et on peut tout à fait travailler avec des matériaux qualitatifs et se revendiquer de cette même objectivité. Je crois que c'est pas du tout le débat. Je crois que ce qui est nécessaire, c'est d'une part d'être capable de revenir et d'objectiver sur son propre rapport à l'objet. Pourquoi on travaille sur cet objet-là, comment, d'où ça vient, comment on se positionne par rapport à lui, ce qu'on est capable d'expliciter. Et puis, je dirais, il n'y a pas de secret d'essayer autant que possible de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Mais on est évidemment dans un rapport asymptotique à l'objectivité. On ne l'atteint jamais, mais on peut essayer d'y tendre autant que possible.
Antoine, merci.
Oui, puisque vous parlez de votre travail de chercheur et que vous nous dites que vous travaillez sur des quantités, sur des données, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précisément de ce qu'on peut voir apparaître quand on est comme ça dans la recherche du grand angle, j'allais dire, sur l'ensemble de données a priori formelles, a priori simplement factuelles?
Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, par exemple, c'est la notion de structure électorale. Et il y a un mystère, par exemple, que personne n'a totalement résolu, qui est que depuis l'émergence électorale du Front National en 1984, la structure géographique du vote pour le Front National est restée extrêmement stable. Alors même que la structure sociologique du vote a beaucoup évolué pendant ce temps-là, que le parti a atteint des niveaux beaucoup plus élevés aujourd'hui que par le passé, qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ce parti, il y a une scission, il y a un changement de présidence, changement de stratégie, etc. Et la structure électorale demeure remarquablement stable.
Géographique, vous voulez dire, oui, les régions où il y a absolument une importance du Front National. Et qu'est-ce que vous en concluez de ça, par exemple?
Ça invite en tous les cas, moi j'ai pas de réponse définitive à cette question-là, mais ça invite en tous les cas à prendre de la distance par rapport aux analyses un peu immédiates qu'on peut faire sur les effets de la stratégie de tel ou tel, sur les caractéristiques de tel scrutin à tel moment donné, etc. Et à considérer qu'il y a quand même des forces agissantes dans la vie politique qui sont des forces de long terme, qui sont des forces structurelles, qui dépassent les acteurs, qui dépassent les électeurs, et que si on n'essaie pas de prendre en compte ces forces-là et ces structures-là, notre compréhension demeure limitée.
Justement parce que par rapport à ces données idéologiques, sociologiques, historiques, puisque vous parlez dans ce livre de l'histoire du Front National, la manière dont il est né, si on vous comprend bien, il y a plus une poussée, selon vous, du Front National qu'une véritable mutation au niveau de son idéologie, de sa manière
de
fonctionner.
Vous voulez dire depuis 2011-2012?
Oui, non, depuis qu'on parle de mutation, oui.
Oui, moi je pense effectivement que, et je suis pas le seul, puisque on a publié un livre collectif l'an dernier sous la direction de Nona Mayer, Sylvain Crépon et Alexandre Désé, Les faux semblants du Front National, qui fait le bilan au fond du Front National après 40 ans d'existence. Et le bilan qu'on en a tiré collectivement, c'est que effectivement les éléments de continuité l'emportent sur les éléments de rupture. Il s'agit pas de dire qu'il n'y a pas eu d'évolution. Il y en a eu, et elles sont importantes et significatives. Pour autant, les éléments de continuité l'emportent. Et ce qui est certain, ce qui est absolument certain, me semble-t-il, c'est que on ne peut pas comprendre ce qui se passe au Front National aujourd'hui sans avoir en tête ce qu'a été le Front National hier et avant-hier. Ça ne veut pas dire que c'est le même.
Pour quelle raison ?
Parce que les partis politiques, et a fortiori les partis politiques, vus du point de vue de leur place dans la société et dans l'électorat, sont des objets qui ne changent que très lentement. On peut pas du jour au lendemain changer son électorat, changer l'idéologie de ses militants, l'idéologie de ses cadres, leur trajectoire sociologique, politique, etc. Donc bien sûr qu'il y a des évolutions, mais on est toujours dans des modifications éventuellement de trajectoire, mais qui ne sont pas des virages à 180 degrés.
Alors pour l'instant, la trajectoire est plutôt ascendante depuis quelques années. Vous remontez effectivement sur une quarantaine d'années et évoquez d'abord les 10 ans de traversée du désert du Front National entre 1974 et 1984, puis ses premiers succès électoraux au début des années 80 avec l'aide plus ou moins de François Mitterrand. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, pour vous, quels sont les ingrédients qu'il est important de retenir de cette histoire du Front National pour comprendre la trajectoire ascendante qu'on évoquait à l'instant?
Alors je crois qu'il y a un premier élément sur lequel j'essaie d'insister, et à la suite notamment des travaux d'Alexandre Désé, qui est l'idée que toute l'histoire du Front National est une histoire de dédiabolisation successive.
Hein, et c'est si pas simplement le fait de Marine Le Pen.
Voilà, si j'insiste là-dessus, c'est effectivement pour remettre en perspective l'entreprise mariniste depuis 2011, qui n'est qu'un avatar, au fond, de ces stratégies de dédiabolisation successive. Le Front National naît, on le sait, sur la base... d'Ordre Nouveau, qui est un groupe néofasciste, hein, et vise à dépasser ce groupe néofasciste, justement, en tentant de rassembler les droites nationales. Et on en trouve d'autres épisodes, et notamment l'épisode maigrettiste, est sans doute le plus connu de ces épisodes de dédiabolisation antérieurs à Marine Le Pen. Donc ça c'est un premier élément qui me semble absolument essentiel de garder présent à l'esprit. Un deuxième élément qui me semble important, c'est aussi de comprendre comment historiquement le parti en tant qu'organisation partisane s'est structuré, le rôle qu'a pu jouer Jean-Marie Le Pen dedans, le type de rapports qui s'établissent au sein du parti et entre le parti et sa périphérie également, pour comprendre la manière dont fonctionne le parti aujourd'hui, hein, qui ne, là encore, ne naît pas de nulle part, et en particulier le rapport entre le président et aujourd'hui la présidente du Front National et le reste du parti, l'habitude de court-circuiter le parti par l'extérieur, comme on le voit encore aujourd'hui dans l'organigramme de campagne de Marine Le Pen, par exemple. Tout ça sont de vieilles affaires au Front National, et en même temps, il y a des évolutions. Une évolution tout à fait frappante, par exemple, c'est que Jean-Marie Le Pen, ça a très bien été montré par Nicolas Lebourg et Joseph Beauregard, Jean-Marie Le Pen a toujours multiplié les numéros 2, au fond, pour qu'il n'y ait personne au sein du Front National qui puisse lui contester le leadership, et en s'assurant d'un équilibre des diverses lignes idéologiques et stratégiques. Marine Le Pen a un peu rompu avec cette tradition-là, et la place qu'occupe aujourd'hui Florian Philippot dans les instances dirigeantes et dans la stratégie du parti est assez inédite en réalité, et donc on peut se poser la question de ce que ça va signifier à l'avenir pour l'évolution du Front National.
Vous avez dit qu'il y avait une tentative de dédiabolisation finalement depuis le début, mais quand même, avec un Jean-Marie Le Pen qui remettait de l'huile sur le feu précisément, volontairement, pour tenter de ne pas être dédiabolisé, il y a quand même un changement qui se produit là, ou vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette stratégie ?
C'est vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. C'est particulièrement vrai après 1987 et l'affaire du point de détail de l'histoire, la fameuse déclaration de Jean-Marie Le Pen, où il dit la Shoah, c'est un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve que cette déclaration a fait dérailler, je dirais, ce qui était la stratégie du Front National jusqu'alors et qui était une stratégie de normalisation. 86, les législatives, 35 députés Front National qui rentrent à l'Assemblée nationale, et avec la mise en avant de profils très dédiabolisateurs, pour le coup. Et en fait, cette stratégie vole en éclats avec l'affaire du point de détail. Dès lors, Jean-Marie Le Pen comprend qu'il ne pourra pas rentrer dans une alliance avec les droites, que la porte lui est fermée et que, du coup, autant mettre en avant, effectivement, même pas, je crois même pas qu'il s'agisse de savoir si ce sont ses convictions ou pas, mais en tout cas une fonction de bouffon de la République, disons en quelque sorte. Mais même après 87, il y a des inflexions. D'abord parce que Maigret pousse beaucoup pour avoir une stratégie de dédiabolisation. Alors trop loin, puisque ça mène à la rupture de 98-99. Mais après 2002, Jean-Marie Le Pen revient vers une stratégie de dédiabolisation. À l'époque, il appelle ça le Le Pen Light. On a un peu oublié cet épisode là maintenant, mais en 2004 en particulier, il espère vraiment être élu président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui serait un peu sa statue du commandeur, en fait, la fin de sa carrière politique. Et donc, il mène vraiment une stratégie qui vise à être totalement dédiabolisé. C'est un échec puisqu'il ne remporte pas ces élections régionales. Et après, il y a des hésitations autour de 2007, avec des influences très divergentes qui s'exercent autour de lui lors de la campagne électorale de 2007, qui mènent à l'échec stratégique qu'on connaît et au fait que Nicolas Sarkozy a pu récupérer une partie de l'électorat du Front National. Mais donc la tentative mariniste, elle tire ses racines quand même d'assez loin, et Jean-Marie Le Pen lui-même a toujours été assez ambivalent avec ça.
Aujourd'hui, il dit attention, vous n'allez pas vous faire élire si vous êtes
tout à fait. Aujourd'hui, il relit le passé en privilégiant la diabolisation. Avec, il a raison sur un point, c'est qu'il a toujours privilégié une stratégie de communication, mais à une époque où l'accès du Front National aux médias était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, reconnaissons-le, il privilégiait une stratégie de communication qui était une stratégie de la provocation. Pour faire parler de lui, considérer qu'il valait mieux une mauvaise presse que pas de presse du tout. Aujourd'hui, les conditions d'accès médiatique du Front National ont quand même beaucoup évolué. Marine Le Pen est reçue dans toutes les émissions politiques sans même que ça fasse débat. Alors que encore il y a 10 ans...
Sauf quand elle refuse d'y aller.
Pardon ?
Sauf quand elle refuse d'y aller.
Oui, là, tout à fait. Mais il y a encore 10 ans, le fait d'inviter Jean-Marie Le Pen faisait débat. Ça n'est plus le cas aujourd'hui.
Joël Gombin, quelle place pour le Front National sur l'échiquier politique ? Le parti est un parti d'extrême droite. Pour vous, on peut l'inscrire dans ce champ, même s'il y occupe une situation assez particulière. En termes idéologiques, quelle est la ligne qui prévaut aujourd'hui dans le parti ?
C'est une bonne question. J'essaie de montrer dans le livre que, justement, tout au long de l'histoire du Front National, il n'y a pas eu une ligne idéologique qui a prévalu, mais que ça a plutôt été une sorte de maison commune de différentes lignes idéologiques, et en particulier, je dirais, à la grande époque, dans les années 80 et 90, y cohabitaient des nationaux catholiques, autour de quelqu'un comme Bernard Anthony, par exemple, y cohabitaient des néo-païens, qui ont par la suite donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui les identitaires, toutes sortes de tendances idéologiques. Et Jean-Marie Le Pen était, je pense, attaché à cette diversité qui a tenu au moins jusqu'à la scission de 98. Et après la scission de 98 où sont partis les maigrettistes, d'autres sont partis, notamment les nationaux catholiques sont partis progressivement au début des années 2000. Marine Le Pen, me semble-t-il, est à la fois moins attachée à cette diversité idéologique au sein même du Front National et en même temps elle-même n'est pas une idéologue. Je pense qu'elle est assez pragmatique du point de vue de son positionnement idéologique et stratégique et qu'elle-même n'est pas complètement passionnée par ces questions-là. Par les questions idéologiques.
Est-ce qu'elle s'en remet à Florian Philippot, par exemple ? On a l'impression que c'est lui qui donne
là. De ce fait-là, effectivement, Florian Philippot jouit d'une influence qui est certaine, mais qui est probablement plus stratégique que idéologique. Je crois qu'il faut bien distinguer les deux dimensions. Aujourd'hui, si on devait qualifier idéologiquement le Front National, probablement que le terme de national-populisme qui avait été proposé par Taguieff est sans doute le moins mauvais.
Alors, des courants contradictoires, la question lui a été posée à elle, Marine Le Pen. C'était le 20 novembre sur France 3.
Je suis la candidate à la présidentielle. Donc la question, c'est est-ce que l'ensemble des cadres, des élus du Front National soutiennent la candidate à la présidentielle ? La réponse est oui. L'important, c'est qu'ils aient tous confiance en moi. Et moi, je défends une ligne très claire devant les Français depuis de très nombreuses années, sans varier. Je crois que c'est ça aussi qui suscite aujourd'hui cette dynamique. Voilà. Dans des mouvements politiques, il y a des hommes et des femmes, ce ne sont pas des robots. Donc ils ont chacun leur parcours, ils ont chacun leur sensibilité. L'important, c'est qu'ils soient d'accord sur les grandes lignes fondamentales. Et objectivement, là-dessus, parlons-en, parce que ça vous intéresse moins chez les autres.
Mais Madame Le Pen,
je crois qu'il y a des différences fondamentales dans les autres mouvements politiques entre les différents dirigeants de ces partis. Ce n'est pas le cas, en l'occurrence,
il y a quand même deux lignes.
Au Front National.
Le Front National, un parti uni derrière sa dirigeante, oui, répond Marine Le Pen, non. Selon vous, Joël Gombin, les tensions internes sont quand même bien réelles et elles pourraient même à terme le fragiliser durablement. Une implosion du parti, ça fait partie justement de ces futurs possibles que vous dessinez, que vous évoquez et dont vous dressez le scénario dans ce livre.
Oui, c'est une possibilité. Disons que tant que le Front National est sur une pente ascendante, les différents, à la fois idéologiques et stratégiques, hein, j'insiste sur le fait que les différences, les désaccords sont à mon avis au moins autant stratégiques qu'idéologiques, et probablement plus stratégiques qu'idéologiques.
C'est quoi la stratégique par exemple ?
C'est comment on fait pour gagner. Ah bon. Et grosso modo, la réponse qu'y apporte Florian Philippot, c'est il faut totalement remettre à plat le grand clivage qui organise la vie politique française, que ce soit plus le clivage gauche-droite, mais que ce soit le clivage patriote ou nationaliste versus ce qu'ils appellent les mondialistes, ou les cosmopolites. Et si on arrive à réorganiser le clivage de cette manière-là, ben, on rafle la mise parce qu'on sera du bon côté de ce clivage, on sera les seuls, et donc on peut rassembler une majorité de Français. D'autres, au sein du Front National, considèrent que cette réorganisation-là n'est pas possible, qu'elle est utopique, et que le seul moyen de parvenir au pouvoir, c'est de se fondre dans le clivage gauche-droite, mais au fond en réorganisant les droites autour du Front National et en faisant du FN la force principale des droites, du FN ou de ce qui deviendrait demain.
Alors quelle ligne est majoritaire ?
Majoritaire, c'est difficile à dire parce que le FN n'est pas un parti où on vote sur des motions, comme au Parti Socialiste par exemple. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la ligne qui est officielle, c'est celle de Florian Philippot, il n'y a pas de doute là-dessus, que la ligne d'union des droites, disons de réorganisation des droites, a quand même de solides appuis, notamment à la base du parti, et plus largement, je pense, dans au moins une bonne partie de l'électorat du Front National. Mais j'ajoute quand même que il est aussi possible d'envisager ces deux stratégies comme deux temps différents. Si vous prenez le cas de Marion Maréchal Le Pen, par exemple, qui est l'une des icônes, je dirais, de ceux qui sont tenants d'une réorganisation des droites. Marion Maréchal Le Pen, quand elle arrive dans le Vaucluse en 2012, elle trouve une situation où l'extrême droite est déjà extrêmement forte. Non seulement le Front National, mais aussi les amis de Jacques Bompard. Et où la droite traditionnelle est en fin de cycle, avec des élus âgés qui soit sont battus, soit partent à la retraite. Et donc, elle est en situation, surtout après son élection comme députée en 2012, de réorganiser les forces de droite autour d'elle. Et très clairement, c'est ce qu'elle a fait, parce que quand vous regardez en 2015, au premier tour de l'élection régionale, en Vaucluse, le FN fait grosso modo trois fois plus que la droite. Et la droite passe derrière le PS, qui est pourtant très affaibli
dans ce
département-là. Tout ça pour dire que elle a pu adopter sa stratégie-là parce que la situation préalable le permettait. Tandis que Marine Le Pen, au niveau national, n'est pas encore, ou en tout cas n'était pas ces dernières années, dans cette situation-là. Elle espère y parvenir. Et je pense tout à fait envisageable que Marine Le Pen, une fois passée de manière définitive devant la droite, adopte cette stratégie de réorganisation des droites. La grande difficulté qui va se poser en 2017, c'est que si on est dans le scénario qui voit s'opposer au second tour de l'élection présidentielle François Fillon, le candidat de la droite traditionnelle, et Marine Le Pen, cette réorganisation ne pourra pas avoir lieu. Puisque
là, il faudra garder la ligne Philippot, là, pour le coup.
Exactement. Donc il faudra miser sur cette ligne-là, qui aujourd'hui, à court terme, semble quand même difficile. Il semble difficile d'envisager que Marine Le Pen puisse l'emporter toute seule en 2017. Et donc, ça veut dire qu'après 2017, là, les débats stratégiques vont se poser à nouveau frais, et en particulier si les résultats du second tour de l'élection présidentielle et surtout des législatives sont décevants pour le Front National.
Mais justement, François Fillon, Manuel Valls peut-être, je vais avoir contre moi des doublures à dénigrer l'héritière de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen. Le candidat François Fillon qui promeut une vision plutôt traditionnelle de la famille, une politique économique plutôt à tendance libérale et qui rebat les cartes un peu de la diplomatie française avec un éventuel rapprochement avec la Russie, ça c'est une mauvaise nouvelle pour le Front National.
À mon avis, ça change pas grand-chose parce que d'abord, là, les débats que nous sommes en train d'avoir, c'est des débats de gens politisés qui suivent de près les candidats, les programmes des uns et des autres, etc. Pour une large partie de l'électorat, et en particulier pour une large partie de l'électorat du Front National, qui est assez peu politisé, assez peu qui s'intéresse pas de très près à la politique, je pense pas que ça change grand chose. Par ailleurs, François Fillon a mené une campagne de primaire, c'était une chose. Maintenant, il va mener une campagne d'élection présidentielle. Il va sans doute un peu arrondir les angles, se recentrer, etc. Et donc, je pense qu'au final, je crois pas que les rapports de force vont être fondamentalement modifiés. Et d'ailleurs, regardez les régionales. Dans une région comme la région PACA, où Christian Estrosi était la tête de liste de la droite, avec un programme qui, pour le coup, se voulait explicitement, parfois, inspiré de celui du Front National, et en tout cas visé à réduire l'espace politique du Front National, ça n'a absolument pas marché. Et c'était la même chose pour Nicolas Sarkozy en 2012. Donc je pense que l'idée de se dire que lorsqu'on a un candidat de la droite qui est plus à droite, ça réduit l'espace politique du Front National...
D'accord, en 2012, il a quand même réussi, enfin la première fois, je veux dire, en 2007, il a réussi.
En 2007,
une stratégie qui peut réussir.
Alors, je pense qu'elle peut réussir, mais à des conditions très spécifiques. En 2007, on était par ailleurs vraiment dans une fin de cycle pour Jean-Marie Le Pen en particulier. Et puis en 2007, Nicolas Sarkozy fait pas seulement une campagne qui vient sur les terres du Front National en termes identitaires, etc. Il fait aussi une campagne de triangulation à gauche. Il faut pas l'oublier, c'est aussi le Nicolas Sarkozy du gagner plus, travailler plus pour gagner plus, qui prend des hommes et des femmes issus de l'immigration avec lui, certains issus de gauche, etc. Donc en 2007, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et surtout, je crois que ça ne marche qu'une fois. Ça ne marche qu'une fois parce que ensuite les électeurs.
C'est ce qu'effectivement le Front National a souvent dit, ça ne marche qu'une fois, les électeurs retournent ensuite à l'original. Tant que ça monte, vous dites, les fissures vont rester en interne. Est-ce qu'il y a des raisons de penser que, là, pendant cette campagne, ça pourrait baisser? Alors vous nous dites Fillon, pas forcément. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Ou est-ce qu'on a le sentiment que l'environnement global est quand même porteur?
Je crois que l'année qui est en train de s'achever, elle nous a appris une chose, c'est qu'il ne faut jamais faire trop de prévisions, ou en tout cas, en n'étant pas trop affirmatif. Il peut se passer plein de choses dans cette campagne et je crois qu'aucun de nous n'est capable de dire avec certitude ce qu'il en sera. Moi, ce que je pense, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a un rapport de force qui est bon pour le Front National. J'entendais tout à l'heure Jean-Christophe Cambadélis qui disait 23-24. Je le trouve assez optimiste de ce point de vue. Je pense que c'est sans doute un peu au-dessus. En tout cas, si on se fie au dernier scrutin, qui est quand même un peu l'épreuve de vérité, on avait un FN qui était très haut. Et alors, la grande inconnue, c'est qu'on était sur des scrutins intermédiaires, donc avec des taux de participation faibles. On va arriver sur l'élection présidentielle, des taux de participation élevés. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce que ça veut dire qu'il y a de nouvelles réserves d'électeurs pour le Front National qui vont venir aux urnes et donc qui vont permettre au Front National de se maintenir, voire de progresser encore? Ou bien à l'inverse, est-ce que le FN a fait le plein, au fond, lors des derniers scrutins et les nouveaux électeurs qui vont se mobiliser à la présidentielle vont voter pour d'autres candidats? C'est difficile à dire, mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue sociologique, l'électorat potentiel du FN est un électorat qui se mobilise peu lors des élections intermédiaires, qui est plutôt abstentionniste. Et donc, il y a quand même d'assez bonnes raisons de penser qu'à une présidentielle, le potentiel du FN sera au moins égal à celui qu'il a atteint lors des derniers scrutins.
Alors, deux choses justement sur l'électorat. Pour une cartographie du vote Front National, on oppose traditionnellement, le Front National du Nord, plutôt social et populaire, proche des ouvriers, à celui du Sud, identitaire et libéral, qui séduirait plutôt les retraités. Ça, avec les derniers scrutins, on a vu, en tout cas, c'est ce qu'ont montré vos statistiques, que c'était plus aussi simple que ça, ou en tout cas pas aussi caricatural. Que quoi, en gros, que l'électorat du Front National est beaucoup plus homogène qu'il n'y paraît?
Homogène, non, mais disons, enfin, je pense que l'idée de distinguer un FN du Nord, un FN du Sud est un progrès par rapport à ce qu'on disait il y a quelques années où on disait il y a un électorat FN sans chercher à aller voir plus loin. Pour autant, je pense que c'est une idée qui est, que c'est une description qui est un tout petit peu caricaturale. D'abord parce qu'elle ignore le FN de partout ailleurs. Et aujourd'hui, le FN est un parti dont l'audience est nationale, très clairement, et qui, on l'a vu lors des scrutins intermédiaires, arrive en première position dans des territoires très très variés.
Ce qui montre quoi aussi? Une porosité d'un électorat à l'autre? À droite notamment?
Alors il y a des porosités, on pourra y revenir, il y a aussi des mouvements tectoniques, c'est-à-dire que l'électorat d'abord se renouvelle au fil du temps, et je crois qu'il y a un affaiblissement extrêmement fort des anciennes identifications partisanes, à gauche comme à droite, en particulier à gauche probablement, mais aussi à droite. Il s'est passé quand même quelque chose de très curieux durant ce quinquennat, c'est que la droite traditionnelle, qui était dans l'opposition, n'a absolument pas profité du fait d'être dans l'opposition. Pendant tous les scrutins intermédiaires, elle était exactement au même niveau qu'en 2012, alors que sous toute la Ve République, on observe un mouvement de balancier où au scrutin intermédiaire, le parti d'opposition remonte. Donc effectivement, je pense qu'il y a un mouvement tectonique qui fait qu'aujourd'hui, le vote FN n'est plus seulement un vote interstitiel ou un vote ponctuel de gens qui font une infidélité à leur parti habituel puis qui y reviennent, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut accepter l'idée qu'il y a un électorat ou des électorats FN fidélisés, loyaux, qui veulent que le FN parvienne au pouvoir, et que ce sera de plus en plus le cas, car les jeunes générations d'électeurs qui remplacent les vieilles générations, auront de plus en plus une identité partisane qui sera celle du Front National. Ce qui était très peu le cas chez les plus anciens, qui sont ceux qui votent le moins aujourd'hui pour le Front National, contrairement à ce qu'on pense souvent d'ailleurs.
Autre précision, juste, vous avez évoqué le contexte actuel. Vous le rappelez, malgré lui, le Front National a quand même aussi bénéficié dans ces dernières décennies de la profonde reconstruction, restructuration du champ politique français qui résulte entre autres de la mondialisation, même si, vous l'écrivez, toute relation entre la mondialisation et le vote pour le Front National ne peut pas être établie directement, qu'il y a des variables intermédiaires qui permettent de mesurer quand même une certaine proximité, notamment sur les questions de confiance envers la classe politique entre la mondialisation et le vote Front National. Aujourd'hui, est-ce que le contexte hors France est porteur pour le Front National ? Bien sûr, pensez à ce qui s'est passé en Autriche dimanche dernier. Mais...
Vraisemblablement, oui, mais l'Autriche, disons-en un mot, on a entendu un grand ouf de soulagement, probablement dans toute l'Europe, mais il reste quand même que le FPE fait 47% des voix au second tour d'une élection présidentielle. Alors, en précisant que l'élection présidentielle n'est pas du tout le même statut en Autriche que ce qu'elle a en France, mais je pour ma part, je n'y vois pas un recul significatif du FPE, tant s'en faut. Et d'ailleurs, il est probable qu'il y aura des élections générales en Autriche dans les mois qui viennent.
Donc Marine Le Pen a raison d'y voir un signe encourageant pour l'Autriche. C'est le cas aussi pour l'Italie, où elle s'est réjouie du non massif donné par les Italiens.
Surtout ce qu'on a vu en Autriche,
les Italiens au référendum,
et qu'on voit en Italie depuis plusieurs décennies maintenant, c'est les désalignements massifs par rapport aux anciens alignements. En Autriche, quand même, depuis la Seconde Guerre mondiale, la vie politique dans ce pays était dominée par les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates qui avaient un monopole quasi exclusif de la représentation politique. Lors de ces élections présidentielles, ils font chacun autour de 10%. C'est un effondrement massif. En Italie, on voit bien également que après la chute de la Première République en 1994, la fin de la démocratie chrétienne et la fin du Parti communiste italien, aujourd'hui, on est peut-être en train d'assister à la chute de la Deuxième République italienne, et on ne sait pas très bien ce qui va en sortir avec Beppe Grillo qui est en embuscade dans cette situation-là. En France, on n'est pas encore à ce point-là de désalignement partisans par rapport aux vieux alignements, disons, du cycle d'Épinay, quoi, des années 70-80. Pour autant, on sent bien qu'il faudrait pas grand-chose pour que on bascule dans quelque chose de complètement différent. Pour l'instant, les institutions de la Ve République protègent beaucoup le système partisan, mais je ne sais pas combien de temps ça durera.
Antoine, merci. La question de la fin.
Est-ce que la notion de plafond de verre a un sens pour vous ?
Elle a un sens dans la mesure où, sous la Ve République, il me semble qu'on ne peut pas gagner l'élection présidentielle tout seul. Même De Gaulle n'y parvenait pas, et il fallait qu'il soit allié à des chrétiens-démocrates, etc. Donc, il me semble que de ce point de vue-là, oui, elle a un sens. Par contre, je n'adhère pas à la signification de ce terme quand ça sous-entend que il y aurait une base sociologique naturelle du Front National qui ne pourrait pas dépasser. Et que donc, une fois qu'il a fait les 25% que représenterait son électorat, il ne peut pas aller au-delà. Ça, je pense qu'il faut avoir une analyse beaucoup plus dynamique de ce point de vue-là.
Joël Gombin, merci beaucoup. Politiste, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, le Front National va-t-elle diviser la France ? Ça, c'est la question qu'on ne vous a pas posée, mais donc on lira le livre pour avoir la réponse. Vient de paraître chez Erol. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de la Grande Table aux manettes aujourd'hui encore. Père et le Gras avec Élise Leu. Émission conçue et préparée par Claire Maillot et Clémence Marie avec Antoine Tricot et Henri Leblanc. Sur le fil des réseaux sociaux, Inès Magriff. Car oui, la Grande Table se tweet et ce like, et elle se réécoute également plus tard à la page de l'émission sur franceculture.fr. Demain, en première partie de la Grande Table, retour sur l'œuvre de Gottlieb, qui est décédé le week-end dernier, dont on a appris donc la mort. Avec cette légende de la BD, on reviendra sur son parcours avec nos invités demain à partir de midi.